J'espère que vous allez bien. Si ce matin vous vous attendez, je vais vous apporter quelque chose de nouveau, eh bien vous allez être déçus. Comme disait l'apôtre Paul, je vous apporte toujours les mêmes choses, mais pour vous cela est salutaire. Enfin, je le paraphrase, et je crois que dans l'Évangile, eh bien, ceux qui cherchent des nouveautés sont un peu déçus, parce que on découvre chaque fois vraiment la richesse de l'Évangile. Jésus, pendant son ministère terrestre, avait pris la bonne habitude de prier. Lui, le Fils de Dieu, avait-il tant besoin de prier? Je vous rappelle, comme je l'ai déjà dit, et comme on vous l'a rappelé, Jésus est venu sous la forme d'un bébé sur cette terre. Ensuite, il est devenu adolescent, puis un homme dans toute sa pleine force. Être un homme, ça implique beaucoup de choses. Et cet homme, Jésus, nous ressemblait en tout point de vue. Mais Jésus, comme je l'ai dit, a pris cette bonne habitude de prier. Et je dois dire que la prière est un exercice très difficile. Celui qui dit que prier c'est facile, je dis c'est pas vrai. Prier c'est très difficile car la prière, quand on prie, on est souvent seul. La prière est solitaire. Bien sûr, il y a la prière d'assemblée, mais la véritable prière, quand on veut vraiment rencontrer Dieu face à face, c'est le moment qu'on doit passer seul avec Dieu. Et l'homme est ainsi fait, il n'aime pas trop la solitude. L'homme est un être social. Il aime bien rencontrer du monde. Moi, j'aime bien rencontrer du monde. Je n'aime pas rester tout seul à la maison. J'aime bien voir du monde. C'est pour ça que je travaille. Je travaillerai peut-être jusqu'à 80-90 ans, parce que j'aime bien voir du monde. Mais la prière solitaire, ça demande un gros effort. Il faut rester honnête, en tant que chrétien, que l'Église ne prie plus tellement. Spécialement ici en Occident. L'Église persécutée, elle est renommée pour sa persévérance et pour son attitude à prier ardemment. Et cela se voit que nos réunions de prière sont très mal suivies, pour différentes raisons. C'est vrai qu'on ne sait pas être à toutes les réunions, qu'il y a des circonstances où on ne sait pas venir, etc. Donc ici, ce n'est pas une critique, mais c'est vrai que ce n'est pas les réunions dans toutes les églises, les mieux suivis. Je me suis déjà retrouvé que je devais présider une réunion de prière, et je me suis déjà retrouvé tout seul avec le pasteur. Heureusement que le pasteur était là, je me suis déjà retrouvé tout seul. Mais ça prouve qu'on a très difficile à prier. Et ce qu'on aime dans nos églises, c'est la louange. On aime bien louer. On aime bien participer à des grands rassemblements de louanges, de soirées de louanges. Pourquoi ? Ben, y a plus d'ambiance, c'est beaucoup plus facile d'être un groupe de personnes, une centaine de personnes, et adorer Dieu, être debout, être bercé par de la musique entraînante, genre Hillsong. J'ai rien du tout contre le groupe Hillsong, je l'écoute encore régulièrement, j'aime beaucoup leurs mélodies. Mais ce n'est pas d'ambiance que le chrétien doit vivre. C'est de persévérance dans la prière. Et si nous regardons la parole de Dieu, nous voyons de grands hommes de la Bible prier longuement, mais seuls. Nous avons Moïse, nous avons Élie, Daniel, Jésus et bien d'autres qui passaient des moments de solitude, mais dans la prière. Quant aux disciples, pendant le ministère de Jésus, nous ne les voyons pas vraiment prier. Je ne vois pas dans la... À moins que je me trompe, mais je ne vois pas dans les Écritures, pendant la période où ils étaient à Jésus, des moments où on voit les disciples se mettre à l'écart et prier tout seuls. La seule fois où Jésus a voulu organiser une réunion de prière, ils se sont endormis. Ça m'est déjà arrivé, je le disais en consistoire, ça m'est déjà arrivé de me tomber endormi pendant une réunion de prière. J'espère que je n'ai pas ronflé ce jour-là. Mais j'étais fatigué, je me suis mis comme ça. C'était à Serein, je me suis mis comme... Et puis, une demi-heure après, je me suis... Et je m'étais endormi. Mais ça, je crois que je ne suis pas le seul, qui nous sommes déjà endormis en priant. Mais voilà, ces pauvres disciples se sont endormis pendant cette réunion de prière où Jésus avait vraiment besoin de leur aide. C'était avant la crucifixion. Et oui, prier seul, c'est dur, mais efficace. Et malheureusement, je dois dire, beaucoup de chrétiens ne prient plus ou pas assez, même chez eux. Et l'on s'étonne parfois que, et si ce n'est pas une critique, mais c'est plutôt une constatation, que les chrétiens, quand les épreuves arrivent, ils se retrouvent dans des grandes difficultés. Ils se demandent bien pourquoi cela leur arrive et ils sont dans un tunnel où ils ne voient pas le bout et malheureusement, ils baissent les bras. Frères et sœurs, je ne crois pas me tromper en vous disant que le manque de prière influence grandement la croissance de l'Église. La désertion de nos lieux de culte ne doit pas être accepté comme une fatalité. Pour l'instant, on est un peu fataliste, on se dit, ne vous tracassez pas, hein, c'est un peu partout pour l'instant. Grâce à Dieu, je vois que l'Assemblée est bien représentée ici, mais dans beaucoup d'églises, les cultes sont aussi désertés, et c'est le Covid, dit-on. Et je remarque même professionnellement, avant, quand il y avait un problème, on disait, ah, ça, c'est l'ordinateur. Et maintenant, quand je téléphone et qu'il y a un souci quelque part, on me dit « Ah, monsieur, c'est le Covid. C'est le Covid. Le Covid, il a bon dos. Même dans l'église, maintenant, c'est le Covid. » Je pense que l'ennemi de nos âmes utilise toutes les possibilités qu'il a pour affaiblir l'église. Et malheureusement, parfois, on accepte un peu, dans l'air du temps, ben oui, c'est un peu normal que nos églises se désertent. Et moi, je dis non. Je ne l'accepte pas spécialement comme une fatalité. Je dis non. Je pense que si l'Église, nous, chrétiens, nous mettions à la prière avec ardeur, je pense que nos églises se rempliraient. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est mon sentiment que si les chrétiens priaient plus intensément, nos églises se remplirait. Et je voudrais prendre quelques exemples pour vous montrer Jésus priant et comment il priait et pourquoi il priait. Et que ce soit des leçons pour nous, chrétiens. Et c'est vrai que Jésus, comme je l'ai dit, nous ressemblait parce qu'il avait pris l'apparence physique humaine. Et Jésus a été tenté tout comme nous. Et l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus, oui, il fut tenté. Il avait besoin de force afin de résister à la tentation. Et Jésus l'avait bien compris. Et c'est le message qu'il laisse à ses disciples et à son Église. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Et beaucoup de chrétiens se laissent vaincre par la tentation. Je vous en ai parlé il y a quelque temps. Pourquoi sommes-nous vaincus par la tentation? Parce que l'on ne veille pas assez, frères et sœurs, parce que l'on est distrait, parce qu'on se laisse piéger par l'ennemi qui n'attend que la première occasion pour nous faire chuter. Voyons d'autres exemples où nous voyons Jésus en train de prier et voyons ce que ça peut nous apporter à nous en tant qu'Église. Dans l'évangile de Luc, il y aura beaucoup de textes dans Luc, vous savez qu'on est pour l'instant souvent dans Luc, mais il y a peut-être une raison là-dessus. Au chapitre 3e, au verset 21, il nous est dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. » Jésus se fait baptiser. Et il n'a pas besoin de ce baptême comme Jean-Baptiste lui fait remarquer. Mais Jésus prend au sérieux cet engagement devant Dieu et les hommes. Frères et sœurs, ne prenons pas à la légère notre passage dans les eaux du baptême. Les eaux du baptême, passer par les eaux du baptême est un engagement que nous prenons devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus l'avait bien compris. Et nous voyons que Jésus prie pour lui, afin que cet engagement soit un engagement sérieux et puissant. Et que voyons-nous pendant cet instant? Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend. Voulons-nous, frères et sœurs, que par nos prières, le ciel s'ouvre sur de grandes bénédictions? Voulons-nous que le Saint-Esprit se répande abondamment sur l'Église et sur l'Église de Blény en particulier et sur nos vies? Alors il n'y a pas d'autre solution que prier avec ardeur. Frères et sœurs, sachons ceci, c'est que la prière fait mouvoir le bras de Dieu. Par nos prières, nous pouvons faire fléchir Dieu. Combien de fois Dieu s'est repenti, nous a-t-il dit dans la parole de Dieu, du mal qu'il voulait faire? Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes ont prié et ont su toucher le cœur de Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons voir l'Esprit Saint se mouvoir dans nos églises, se mouvoir dans les pubs, eh bien, prions, mettons-nous la prière. Jésus avait un ministère de plus en plus puissant. Il accomplissait des miracles de toutes sortes et la foule venait à lui. Quel succès il avait, ce Jésus! Quelle gloire! Il la méritait bien. Il est le Fils de Dieu. Il peut se prévaloir de ce titre. Et pourtant, nous voyons que Jésus, malgré qu'il est le Fils de Dieu, le succès ne lui monte pas à la tête. Il reste simple. La gloire est réservée uniquement pour son Père. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, il nous est dit, au verset 15, « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait dans les déserts et il priait. Il se retirait dans les déserts et priait. » Jésus a été en plein succès, en pleine gloire, allons-nous dire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il signait des autographes comme nos vedettes actuelles? Sûrement pas. Il se retirait, prie. Il prie pour ceux qui l'avaient guéri. Il prie pour cette foule qui le suivait. Mais il ne tire aucune gloire de cela. Frères et sœurs, nous pouvons peut-être avoir du succès, avoir de la gloire par notre ministère, par le travail que nous accomplissons au sein de notre Église. Frères et sœurs, nous pouvons recevoir des louanges de nos frères et sœurs, des hommes, des femmes qui nous entourent. Mais que la gloire de ce que nous faisons revienne uniquement à notre Dieu. Nous ne travaillons pas pour nous. Nous ne travaillons pas pour notre paroisse. Nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, pour le royaume, pour son royaume. Alors, frères et sœurs, mettons-nous à la prière. Prions que notre ministère porte du fruit et que le Saint-Esprit, oui, que le Saint-Esprit puisse œuvrer au travers de nous. Mais que la gloire en revienne à notre Dieu, qu'on voit Jésus au travers de notre travail, au travers de notre ministère. Laissons paraître Jésus, effaçons-nous. Que disait Jean-Baptiste quand on voyait que son ministère diminuait? Il disait, il faut qu'il croisse en parlant de Jésus et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que mon moi diminue. Il faut que Jésus croisse en nous, que le monde voit que Jésus vit en nous, qu'il travaille au travers de nous. Le psalmiste dira ceci au verset 12 du psaume 36, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Et ça a été souvent ma prière, je dois l'avouer. Seigneur, que je ne sois pas orgueilleux. Si j'ai peut-être une facilité de m'exprimer, je fais ceci ou cela, que je ne sois pas orgueilleux, mais que la gloire t'en revienne. Frères et sœurs, prions pour que chacun d'entre nous, dans le travail que le Seigneur nous a donné, nous puissions rester à notre place et non pas vouloir prendre la place du Maître. Autre point, prions-nous. Nous arrive-t-il de prier quand nous avons des décisions importantes à prendre dans notre vie? Si nous ne le faisons pas, ne nous étonnons pas de nous casser la figure. Et j'en parle par expérience. Prendre des décisions parfois à l'emporte-pièce, prendre des décisions sur un coup de tête, et puis se casser la figure et se rendre compte qu'on s'est trompé. Et ensuite, que faisons-nous? Eh bien, comme des petits-enfants, nous pleurons auprès de notre Dieu et nous allons dire « Seigneur, Seigneur, regarde un peu ce qui m'arrive. Seigneur, regarde un peu dans quel état je suis. » Et lui de nous répondre peut-être « Mais dans quel état tu t'es mis, mon enfant? Tu as voulu avancer, mettre la charrue avant les bœufs. Tu as voulu travailler sans mon accord. Tu as voulu faire telle ou telle chose sans vraiment prendre conseil, sans prier. » Et ensuite, vraiment, nous prions « Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de la boue, sors-moi de ce problème. » As-tu prié, mon frère, ma sœur, ou as-tu foncé tête baissée sans demander l'avis du Seigneur dans telle ou telle situation? Que ce soit des situations spirituelles, que ce soit des situations professionnelles, matérielles ou pas, demandons dans la prière conseil à Dieu. Afin de ne pas nous tromper, afin de ne pas nous retrouver dans des situations difficiles où nous ne savons pas nous en sortir et que nous sommes dans l'angoisse. Jésus, frères et sœurs, a dû prendre des décisions importantes pendant son ministère terrestre. Par exemple, dans le choix des apôtres. Qu'a-t-il fait avant de choisir les 12? Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier son Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus a passé une nuit en prière afin de choisir les 12 apôtres, à choisir ces hommes qui devaient lui succéder. Afin d'annoncer la bonne nouvelle, il ne fallait pas se tromper. Et pourtant, malgré cette nuit de prière, il a choisi Judas, vous allez dire. Judas a été choisi aussi par Dieu. Il fallait que Jésus choisisse des hommes fiables, des hommes zélés, compétents, pour pouvoir construire l'Église, son Église. Et pour cela, Jésus a prié, passé toute une nuit dans la prière. Chers amis, prions, passons de longs moments dans la prière quand nous devons faire des choix de toutes sortes afin de connaître la volonté de Dieu. C'est important, c'est salutaire, afin de ne pas se casser la figure, afin que l'Église ne prenne pas de mauvais virages. Si l'Église, pour l'instant, est en train de vivoter dans nos pays, c'est surtout parce qu'elle manque de prière et alors on prend des décisions à l'emporte-pièce. Que de décisions dans les derniers temps n'ont-elles pas été prises? Et je ne vais pas citer, vous vous rendez bien compte de ce que je veux dire. Contraire à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que même nos enseignants, même nos prédicateurs, nos pasteurs ne prient plus, ne regardent plus la parole de Dieu. Alors on fait du n'importe quoi, on vit selon le temps présent, parce qu'il faut être à la page pour amener des gens dans nos églises, mais il faut être comme le monde. Et on a le résultat contraire, les églises se vident, parce que le monde sait très bien comment nous devons vivre. Et ils sont les premiers à nous donner des leçons en nous disant « C'est comme ça que vous vivez en tant que chrétien, c'est ce que Dieu a dit. » Ah mais là c'était une fameuse gifle, hein, quand et j'en ai déjà reçu comme ça, quand nous ne sommes pas toujours comme il faudrait. Mais ils savent très bien comment on doit être en tant que chrétien. Et si les chrétiens vivent comme dans le monde, pourquoi venir à l'église? Alors allons au cinéma. Le résultat est le même, frères et sœurs. Si nous ne prions pas, nous perdons le cap, et nos églises ont perdu le cap. Si nous voulons que nos églises se remplissent, prions. Prions pour nos âmes, prions pour nos contemporains. Parfois, nous voulons partager une révélation. Nous voulons partager une parole que nous avons reçue de Dieu. Et parfois, nous nous posons la question, est-ce bien la volonté de Dieu que je partage telle ou telle chose? Vous est-il jamais arrivé, ça, de fois, d'avoir le désir de partager quelque chose de la part de Dieu? Et ça m'est déjà arrivé, et puis on se tait. On ne dit rien. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas vraiment recherché la volonté de Dieu en disant, « Seigneur, est-ce bien cela que je dois apporter aujourd'hui? Est-ce bien cette parole que je dois dire à mon frère et ma sœur qui est dans telle ou telle situation ?» Jésus a connu ces moments où il a dû révéler certaines choses très précises à ses disciples, très précises pour son Église future. Et Jésus, quand il a donné des choses très précises, avant de les révéler à ses disciples, il s'était mis à la prière. Nous voyons ça dans Luc chapitre 9. Au verset 18, un jour que Jésus priait à l'écart et avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Donc Jésus s'était mis à l'écart avant de parler à ses disciples. Et il a prié. Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus le recommanda sévèrement de ne dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus, avant de révéler à ses disciples qu'il était vraiment le Fils de Dieu, qu'ils avaient en face de lui le Fils de Dieu, et que ce Fils de Dieu allait vivre des moments tragiques, que le Fils de Dieu devait mourir pour porter les péchés du monde, il s'était mis à prier pour que ses disciples puissent comprendre cette révélation qu'il allait leur faire. Vous voyez que Jésus n'a pas révélé ça à d'autres personnes, il a révélé ça aux 12, à leurs frères et sœurs. Si Jésus avait besoin de prier quand il devait révéler des choses importantes, si dans la prière, le Seigneur nous montre que nous devons révéler certaines choses à l'Église, à nos frères et sœurs, à une personne en particulier, bien laissez-nous conduire par l'Esprit, afin que cette parole puisse toucher les cœurs de ceux qui l'entendent. Oui, c'était quelque chose que peu de gens pouvaient comprendre, la révélation que Jésus allait dire à ses disciples, mais il avait prié. La parole de Dieu nous dit aussi, l'Ecclésiaste nous dit ceci, parce que il y en a qui ne disent rien, et il y en a qui parlent beaucoup. Il y en a qui parlent beaucoup trop. Alors, frères et sœurs, ne parlons pas trop vite de la part de Dieu. Écoutez bien ces paroles. L'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Jésus ne parlait pas pour ne rien dire. Jésus priait avant de parler, mais Jésus donnait les quelques mots qu'il fallait dans sa révélation. Et il ne faisait peut-être pas de longues phrases, mais c'était clair et précis. Frères et sœurs, soyons de même ainsi, soyons remplis de sagesse, afin de ne pas dire n'importe quoi. C'est pour cela, prions, demandons à Dieu de nous guider dans nos paroles. Frères et sœurs, rendons-nous compte aussi que la prière nous conduit vers le surnaturel de Dieu. Oh là ! Nous ne voulons pas être des mystiques avec la tête dans le nuage, avec de l'encens à côté de nous et être dans des vapeurs d'alcool ou de mie ou de n'importe quoi. Non, non, soyons des gens équilibrés. Un chrétien doit avoir les pieds sur terre, ses deux pieds sur terre, vivre avec la réalité actuelle. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais les préserver du mal. C'est ça l'Église. Être dans le monde, les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, frères et sœurs. Déjà actuellement, nous sommes assis dans les lieux célestes, mais nos pieds sont sur cette terre et nous devons vivre d'une manière équilibrée. Et pour être équilibré et ne pas être désilluminé, parce que Internet nous ouvre la porte vers beaucoup de doctrines, vers beaucoup de choses qui sont bonnes, mais aussi qui sont mauvaises et qui sont contraires à la parole de Dieu. Si nous voulons être équilibrés, prions. Remettons à Dieu notre vie. Et la prière nous permet ainsi d'accéder à l'intimité de Dieu. Car la route nous est ouverte. Le voile est déchiré, nous pouvons pénétrer dans la présence de Dieu. Et nous pouvons voir des choses extraordinaires dans notre vie. Comme les trois disciples de Jésus, invités par Jésus au moment de la transfiguration, Luc chapitre 9, verset 28. Il les a dit, quelques jours après que Jésus avait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Les disciples ont vu la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous pouvons voir la gloire de Dieu dans l'Église. Mais il faut que cette communauté puisse se développer. Et pour cela, il faut prier. Croyons-nous que nos communautés se développent? Croyons-nous que notre communauté puisse se remplir? Le voulons-nous? Ou voulons-nous rester la petite communauté de Blogny? Pourquoi pas la grande communauté de Blogny? Hein? Rien n'est impossible à notre Dieu. Alors prions afin de voir ces choses qui sortent de l'ordinaire et qui se produisent dans notre vie pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je crois au surnaturel de Dieu. Je crois au miracle. Je crois à la guérison divine. Les résultats, frères et sœurs, nous le verrons si nous avons une vie de prière. En tant qu'individu, en tant qu'Église, ici je parle de notre vie de prière individuelle et aussi de la vie de prière de l'Église. Frères et sœurs, si nous voulons voir ces choses-là se produire, elles ne se produiront que si chaque chrétien se met sérieusement à la prière, voit la prière d'une autre façon. Continuons à développer la prière avant l'enseignement. Prions-nous, et si je parle à ceux qui doivent enseigner, je me parle, je vous parle, prions-nous avant l'enseignement, prions-nous avant d'enseigner les autres, prions-nous avant d'enseigner l'Église. C'est important, c'est une responsabilité. Luc chapitre 11, verset 1, Jésus prit un jour en certain lieu, qui lui achevait un de ses disciples, dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Jésus priait avant d'enseigner. Ensuite, Jésus se mit à enseigner. Il avait besoin, lui le Fils de Dieu, de prier, afin que son message soit un message percutant, un message qui touche le cœur, pas un message théologique qui survole nos têtes. Nous n'avons pas besoin de ça, nous avons besoin de la puissance de Dieu quand nous parlons. Et frères et sœurs, nous ne pouvons pas apporter un enseignement s'il n'est pas précédé par la prière. Il ne peut pas porter du fruit. Et Jésus leur enseignait à prier. Si nous ne savons pas comment prier, aspirons-nous vraiment de cette prière. Jésus priait aussi pour ses disciples, car il savait qu'ils allaient passer des moments difficiles et que l'ennemi allait se déchaîner sur eux. Luc chapitre 22, il dit ceci au verset 31, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, Affermis tes frères. Frères et sœurs, Jésus en ce moment intercède encore pour nous auprès du Père, car il sait les moments que nous allons passer, il sait les moments difficiles que nous passons en cause de ce Covid, il sait que nous passons des moments difficiles pour l'Église persécutée, qui vit des moments tragiques et difficiles, certains sont emprisonnés, il prie pour ces gens-là, il prie pour nous, parce qu'en Occident, il sait bien que son Église n'est pas fort réveillés, malheureusement, il prie pour nous, afin que l'ennemi ne nous atteigne pas, afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Frères et sœurs, nous sommes toujours à la merci de notre ennemi d'une façon ou d'une autre. Et l'intercession les uns pour les autres est très importante afin de demeurer ferme dans la foi. Frères et sœurs, il est très important de porter notre communauté dans la prière. Nous ne connaissons pas les besoins de chacun d'entre nous, mais prions pour nos frères et sœurs. Intercédons pour eux, car Dieu connaît les besoins, et prions pour cette communauté-ci, afin qu'elle reste une communauté vivante, afin que cette communauté puisse se rajeunir, afin que cette communauté puisse demeurer un flambeau, un témoignage dans cette ville. Jésus aussi a prié dans d'autres circonstances. Jésus, dans la souffrance, a prié. Il ne s'est pas découragé. Que faisons-nous quand nous passons par la souffrance? Sommes-nous en froid avec lui? Lui reprochons-nous d'être dans les difficultés? Nous disons, Seigneur, c'est ta faute. Comme Marthe avait dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu étais là, en ce moment-là, je ne serais pas dans telle difficulté. Mais Jésus est là. C'est nous qui ne le voyons pas. C'est nous qui perdons contact avec lui. Sommes-nous en froid avec Dieu quand nous sommes dans la difficulté? Ou suivons-nous l'exemple de Jésus et comme lui, nous prions? Luc chapitre 22, 40 à 46. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, donc à Gethsémani, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus, au plus fort de la bataille qu'il livrait contre les puissances mauvaises, a prié avec ardeur, au point de transpirer des grumeaux de sang. Et les disciples, ils étaient tristes. Êtes-vous triste ce matin? Pour une raison ou pour une autre, hein, je ne sais pas laquelle. Êtes-vous triste que votre tristesse vous empêche de prier comme les disciples? Votre tristesse vous empêche de prier et vous perdez contact avec la réalité, avec Dieu. Et Jésus dit, priez, sinon vous allez tomber dans la tentation. Et c'est vrai que quand on est triste, on a difficile à parler avec les autres, avec son conjoint, et spécialement avec Dieu. Et si ce matin, tu es mon frère, ma sœur, dans la tristesse, ne reste pas dans la tristesse comme ça, en te taisant. Ne reste pas dans la tristesse et couper toute relation avec ton Dieu. Si ce matin, tu es triste parce que quelque chose t'arrive dans ta vie que tu ne prévoyais pas, et cette tristesse t'empêche de prier, ressaisis-toi, ne t'endors pas, parce que l'ennemi rôde autour de toi pour te faire chuter. Ressaisis-toi, ne dors pas, prie, même si c'est dur. Même si c'est dur, tu as besoin d'être en contact avec ton Dieu. Au jour le plus sombre et dans l'angoisse de son âme, Jésus prie et il est fortifié par un ange que Dieu envoie. Mon frère, ma sœur, si tu es dans la tristesse ce matin et que tu commences à prier, le Saint-Esprit viendra te fortifier. Le Saint-Esprit viendra t'apporter le secours, ce dont tu as besoin. Il ne te laissera pas tomber. C'est dans la prière, frères et sœurs, que la bataille pour l'âme humaine est gagnée ou perdue, si tu ne pries pas. Les disciples ne l'ont pas compris à ce moment-là. Pas étonnant de la débandade qu'ils ont vécue au moment de la crucifixion. Ils n'ont pas pu prier au moment opportun. Et puis il y a la dernière prière du Christ sur terre, peut-être la plus poignante, en pleine douleur. Jésus est sur la croix. Jésus n'est pas mort tout de suite, il a au moins resté 3 heures en train d'agoniser. Et Jésus a la force de prier pour ceux qui le crucifient. Et il dira, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Il prie pour ses ennemis, puis il prie le Père de le recevoir. Jésus était un homme de prière, et son exemple nous enseigne que la prière doit toujours demeurer dans nos cœurs et sur nos lèvres. Pouvons-nous prier Jésus en toutes circonstances dans notre vie? Pouvons-nous prier pour nos ennemis, comme Jésus l'a fait? Ou plutôt, nous les maudissons. Prier en toutes circonstances doit être la devise du chrétien. Suivons-nous l'exemple de Jésus ou sommes-nous vite lassés de prier? Ce n'est pas la question que je pose à tout, mais je nous la pose, comme je le dis souvent. Je me le dis aussi, est-ce que j'ai la force de prier en toutes circonstances? Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dira « prier sans cesse ». Ça ne veut pas dire être à genoux nuit et jour, mais ça veut dire avoir constamment une attitude de prière là où nous sommes. Une prière peut monter quand nous sommes dans une réunion, au travail, sur le marché, au supermarché, n'importe où. Nous pouvons avoir cette pensée de prière à chaque moment de notre vie. Une prière peut s'élever vers notre Dieu. Frères et sœurs, ce matin, ce que je nous demande, reconsidérons notre vie de prière en ces débuts d'année. Prenons de bonnes résolutions et gardons ces résolutions. Et alors, frères et sœurs, nous irons vers des victoires dans notre vie. Je vous laisse ces paroles-là dans vos cœurs, que nous puissions vraiment ce matin revoir notre façon de prier et nous dire, Seigneur, je n'ai pas vécu une année de victoire, c'est peut-être parce que je n'ai pas pu prier comme tu voulais. Seigneur, si l'Église ne se développe pas comme il faudrait, c'est peut-être parce que nous n'avons pas mis cette ardeur et cette conviction de dire, malgré les temps difficiles, nous pouvons voir une Église qui se développe. Ça se passe dans certains pays où nous voyons l'Église qui se développe. Pourquoi pas ici en Belgique? Pourquoi pas dans la province de Liège, une Église qui se développe? Des chrétiens heureux de vivre une vie chrétienne. Prions. Dieu Tout-Puissant, ce matin, je te demande d'abord pardon pour moi. De ne pas prier constamment, de ne pas toujours prier pour mes ennemis, de ne pas prier quand on est dans les difficultés. Seigneur, pardon pour cela. Pardon pour l'Église, Seigneur. Pardon pour mes frères et sœurs. Nous puissions reconsidérer notre façon de voir la prière, de ne pas voir cela comme un devoir, mais comme une relation entre père et fils. Nous sommes tes enfants et nous voulons te parler dans la prière. Seigneur, Bénis cette communauté, Seigneur, que vraiment chacun d'entre nous puissions revoir notre position, Seigneur. Bénis ceux qui souffrent, bénis ceux qui sont dans la déprime, Seigneur, va les rejoindre. Que l'Esprit Saint agisse, Seigneur. Merci, Père, d'écouter nos prières. Amen.